écoutez Les Affamés avec Sarah Manzano, Megan Asselin et Laetitia Zé sur les ondes de Chiz 94.3.
Matin, ou devrais-je plutôt dire bon midi, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien et surtout, j'espère que vous êtes affamés parce que, oh, qu'est-ce qu'on entend au loin? Eh oui, c'est bien le bruit de mon ventre qui gargouille pour les actualités de la journée. Comme le dit notre très belle et nouvelle introduction d'émission, je suis toujours en compagnie de Megan et de Laetitia, mes fameuses co-animatrices que j'aime et que j'adore depuis et que je connais maintenant depuis la session dernière. On a un super beau menu détaillé, vraiment rond en bouche, juste pour vous. Vous allez voir, ça va être délicieux dans les papilles gustatives. Je m'excuse à l'instant pour cette onomatopée que vous venez d'entendre. Les filles, comment ça va? Megan, Laetitia, avez-vous passé un beau week-end?
Moi, ça va super bien. J'ai une petite douleur au bras, je te dirais, Sarah. J'ai fait une petite folie ce week-end.
Qu'est-ce que t'as fait comme folie, là?
Hé, là, maintenant, je peux le dire en onde parce que j'ai eu le courage d'en parler à mes parents.
Félicitations.
Merci, mais ce week-end, j'ai décidé de me faire un tatouage d'amitié avec ma bestie forever.
Yes!
Et je me suis dit, moi, quand je fais les choses, je ne les fais jamais petit, je les fais en grand.
Mais oui.
Et donc, j'ai décidé de me faire tatouer un énorme tatouage sur le bras.
Là, moi, je l'ai vu, ton tatou, tu me l'as montré tantôt hors onde, mais décris-le un petit peu. Fais-nous un beau petit portrait, là, pour nos auditeurs.
OK, je vous mets en contexte. Moi, je suis une personne qui est quand même très spirituelle, ma meilleure amie également. Donc, on a décidé de se faire tatouer la carte du soleil, wow, du tarot, okay. Et on l'a modifié selon notre amitié. Donc, dans le soleil, on a mis le signe du yin et le yang.
Parfait.
Pour montrer notre tempérament, parce que ma meilleure amie, c'est comme le démon, et moi, je suis comme l'ange au côté.
C'est très complémentaire.
Oui, exactement. C'est pas une relation d'amour-haine, mais on est très complémentaire. Également, on a un ange sur notre tatou qui est un ange de Freddie Mercury.
Avec du groupe la moustache
Queen.
Et tout. Là.
Exactement, parce que c'est notre artiste préféré.
Incroyable.
Et c'est grâce à lui, si on s'est trouvé dans notre vie. C'est Bohemian Rhapsody qui nous a beaucoup rapprochés.
Oh, wow.
Et on a également là, deux signes astrologiques qui représentent nos signes à nous. Donc, c'est quand même très représentatif. Là.
C'est vraiment un beau tatou. En tout cas, moi, pour l'avoir vu plus tôt, là, en noir et blanc, je le trouve super. Et honnêtement, quitte à faire un choix qui est permanent dans notre vie, plutôt choisir un tatou qu'un enfant, c'est ma philosophie.
Quelle comparaison!
Ah, c'est excellent, j'adore!
Non, je fais des blagues, là. J'admire tous les parents du Québec et du monde entier. Vous faites bien ça, lâchez pas la
patate.
La COVID a été difficile, surtout pour la gestion d'enfants. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'autre qui va rendre la tâche extrêmement difficile pour les parents du Québec. Est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que moi, j'en ai entendu parler ce matin et oh mon Dieu que j'avais des choses à dire sur le sujet.
On parle bien de la grève des autobus.
Ding, 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 ding! 10 points pour Gryffondor. Donc, en effet, il y a bel et bien la grève des autobus. Oui, il y avait la semaine dernière la grève des autobus de la Société des transports de Lévis. D'ailleurs, j'ai de la famille qui habite à Lévis et j'ai vraiment pensé paix à leur âme pendant cette période-là parce que ça devait être difficile de se déplacer. Mais ouais, la grève des autobus scolaires, les parents se sentent vraiment pris en otage. C'est ce que rapportent du moins les citations de pas mal tous les articles de journaux qui sont sortis dans les dernières heures. Et moi, d'ailleurs, en m'en venant ce matin, en auto à la radio, j'ai entendu aux nouvelles une entrevue qu'ils avaient fait avec justement une chauffeuse d'autobus et qui énonçait le fait qu'elle gagnait, elle et certains de ses collègues, parfois juste 400 $ par semaine, ce qui revient à 800 $ aux deux semaines, et donc 1 600 $ par mois. C'est absolument aberrant.
Très
de
aberrant.
Savoir que plusieurs personnes que je connais, juste en général, qui occupent certains postes, gagnent beaucoup plus que des chauffeurs d'autobus. Chauffeurs d'autobus qui, crime, c'est quasiment une job essentielle à différents niveaux. Là. Je ne sais pas si vous, dans votre jeunesse, vous avez utilisé les services d'autobus scolaires.
Moi, je n'avais pas le choix, étant donné qu'il n'existait pas d'école secondaire dans la ville où que j'habitais. Mais je pense que comme plusieurs métiers. Le métier de chauffeur d'autobus est... Et pas oublié, mais je pense qu'on le met de côté. Je pense qu'on le valorise moins que certains métiers.
C'est une mentalité et vous me corrigerez à la limite, là, mais j'ai l'impression que cette mentalité-là est de moins en moins commune chez des générations plus jeunes. Quoique en même temps, bon, il y a toute une culture, et vous me pardonnerez l'anglicisme, mais une culture du grind, une culture du travail et de l'argent qui est en train de se développer avec une génération plus jeune que nous. Mais j'ai quand même l'impression que la mentalité de « Oh les éboueurs! Oh les gens qui flippent des burgers! Oh les gens qui nettoient les rues et qui chauffent des bus! Oh, c'est tous des citoyens de troisième classe qui n'ont pas autant d'importance et c'est normal qu'ils gagnent si peu d'argent! » Tu sais, moi, là, ce stéréotype-là, je l'ai si entendu de la part de générations plus âgées, tu sais, qui disent oh, « Tu veux pas finir dans tel métier, tu veux pas faire ci, tu veux pas finir chauffeur d'autobus, tu veux pas faire ça. » Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cette négligence-là, cette perception de ce genre de métier-là dont on voit les répercussions là, maintenant. Il y a vraiment, en tout cas, une négligence de l'importance de ce métier-là.
Je pense qu'il y a une partie de la population qui voit les chauffeurs de bus comme étant des gens qui ne vont pas nécessairement faire énormément d'heures. Ce que je veux dire par là...
Ah, c'est faux, en plus, c'est faux.
Et je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que on imagine le chauffeur de bus comme étant la personne qui va chercher les enfants le matin, donc qui va travailler, je ne sais pas moi, de 7h à 9h, qui apporte les enfants à l'école, et après ça, de 9 à midi, ben il est en pause. Je pense qu'il y a une partie de la population, je crois, qui va voir ce chauffeur de bus-là comme étant une personne qui va travailler de 2 à 4 heures par jour.
Ouais,
donc,
qui va se dire,
ben finalement, le 800 en deux semaines, c'est vraiment quand même généreux pour une personne qui ne fait pas beaucoup d'heures chaque semaine. Donc, je pense que c'est un métier qu'on ne connaît pas et qu'on devrait prendre plus de temps à connaître afin justement d'enlever ces petits stéréotypes-là de l'ancienne génération.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je vais juste vous faire un petit portrait un petit peu de la situation pour vous donner une idée. Là. Essentiellement, vendredi dernier, il y avait eu des négociations, il y a eu une rencontre pour des négociations et elles n'ont donné à rien. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés de l'avant avec la grève qui va durer 2 semaines. Donc, c'est vraiment 2 semaines de devoir s'arranger un petit peu avec ces troubles pour ces parents-là. On parle essentiellement 6 000 jeunes de différentes... centres scolaires, établissements, services des découvreurs, la capitale, Navigueur, la Commission scolaire centrale de Québec. C'est 6 000 jeunes et leurs familles qui sont touchés. Il y a des jeunes qui simplement n'iront pas à l'école pendant 2 semaines parce que ce n'est pas possible pour les parents de s'arranger avec le travail et tout ça. Il y a des jeunes qui vont faire du covoiturage. Il y a des jeunes qui vont certains jours rester à la maison et d'autres journées s'arranger d'une autre façon parce que les parents ont réussi à prendre congé ou à commencer plus tard. Mais comme vous voyez, c'est vraiment un casse-tête pour la majorité des parents.
Moi, je trouve ça quand même, je dirais, triste que ce métier ne soit pas valorisé à sa juste valeur parce qu'il dépanne et aide beaucoup les parents.
Ah oui.
Comme, faut pas comprendre se lever le matin peut-être à 7h, si peut-être tu travailles à 10h pour aller déposer des enfants, après aller travailler. Il y a d'autres parents qui sont obligés de faire un détour parce que l'école n'est pas sur le même chemin du travail. Mais il faudra enfin qu'ils soient entendus après cette grève et puis peut-être qu'il y ait une augmentation par rapport à leur travail. Mais en fin de compte, ça fait beaucoup de grèves quand même ces temps-ci.
Je trouve ça dommage que cette grève-là, elle va toucher, je vous dirais, à 90% les mauvaises personnes. Dans le sens que on veut pénaliser l'employeur, mais dans le fond, on pénalise les enfants, on pénalise les parents qui doivent se casser la tête à essayer de trouver des moyens d'aller porter leurs enfants à l'école. Donc, je trouve ça quand même très triste.
Je trouve ça intéressant que vous abordiez un petit peu ce sujet-là, les filles, parce que j'ai justement le témoignage de M. Louis-Charles Racine dans un article du Journal de Québec. Monsieur Racine est père de 3 enfants et il parle un petit peu de son calvaire et de à quel point justement les 2 prochaines semaines vont être un enfer. On le cite, il dit « À partir de ce matin, j'ai 3 enfants, dont une fille lourdement handicapée, à les reconduire dans 3 établissements différents et les rechercher en fin de journée. » Vraiment, pour lui, c'est des choses qu'il le dit, il n'avait pas besoin dans son quotidien. En plus, ça complique vraiment son horaire et ça complique vraiment sa routine, veut pas. Et il dit exactement ce que tu viens de dire, Megan, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Il dit comprendre les démarches des chauffeurs, mais que, bon, ultimement, les conséquences de la grève sont subies par plein de personnes qui ne sont pas impliquées par le problème de la grève. Donc, il y a une autre dame, une autre mère qui s'appelle Chantal Royer qui dit « C'est plate parce qu'on a un peu, beaucoup, l'impression d'être prise en otage. Vraiment, fait que c'est des questions de réarranger leur horaire de vie et leur horaire de job et qui... essentiellement chamboule la vie de, bon, pour les deux prochaines semaines, de milliers d'enfants et probablement de plusieurs parents aussi. Donc, tu sais, la semaine dernière, c'était la grève des autobus de Lévis. Là, c'est cette grève-là.
C'est ça, ça fait trop
mais
de grèves
c'est
tirées.
Ça que, comme je trouve ça quand même drôle que la semaine dernière, on parlait justement de la grève de Lévis et que ça touchait principalement les étudiants universitaires et du cégep. Et là, ben, cette semaine, voici la différence. On parle plutôt des enfants du primaire et du secondaire.
Ouais, c'est assez désolant et on leur souhaite bonne chance pour les deux prochaines semaines, parce que moi, j'ai l'impression que ça va... En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup utilisé les autobus quand j'étais jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient capables de s'arranger avant d'aller au travail pour aller me porter. Merci, papa, maman. Je vous aime. Mais crime, j'ai beaucoup de pensées. Je vois, avec beaucoup d'introspection, l'effort que ça prenait à mes parents chaque matin de faire ce détour-là en plus. Et chapeau et bonne chance à tous les parents qui seront mis dans cette situation-là. Pour les deux prochaines semaines, vous avez toute notre admiration. On va rester dans un petit peu le sujet de conversation des transports et on va parler de taxes, plus précisément de taxes envisagées pour les automobilistes dans la région de Québec. Donc, comme on le sait, à Montréal, il y a une espèce de taxe sur l'immatriculation des véhicules et Québec ainsi que Lévis, avec d'autres municipalités adjacentes comme Saint-Augustin. Je dis bonjour à Mont-Saint-Augustin, mon hood de la banlieue. Toutes ces municipalités de la CMQ envisagent sérieusement d'imiter Montréal et d'imposer d'ici 2024 une nouvelle taxe sur l'immatriculation des véhicules pour financer le transport collectif et actif. Donc, pour tout ce qui est tramway, autobus, transport en commun de nature quelconque, à Québec, on est en train d'évaluer la question d'une taxe sur l'immatriculation. Qu'est-ce que ça implique, une taxe sur l'immatriculation? Essentiellement, ça serait un montant fixe par année que chaque personne avec un véhicule immatriculé de style automobile va être taxé dessus. Là, dans l'article du Journal de Québec, il donnait l'exemple d'environ 30-40 $ par année. C'est possible que ça soit moins, c'est possible que ça soit plus. Il y a beaucoup de discussions autour du sujet. Bien entendu, ce n'est pas la seule possibilité ou la seule option de taxe qui est observée. Vraiment, la taxe sur l'essence est écartée. Ça n'intéressait pas le maire Labombe et ça n'intéresse toujours pas le maire Bruno Marchand. Par contre, une autre taxe qui est... je vous dirais étudier avec beaucoup d'intérêt et celle sur le kilométrage. Est-ce que vous savez c'est quoi le concept de la taxe sur le kilométrage, les filles?
Ouais.
C'est pas quand tu dépasses, je pense, le kilométrage qui est demandé sur la route, dans le fond? Tu dois payer une amende, on
dirait? Non, c'est dans le fond, pour être plus clair, là, c'est selon le kilométrage que tu vas faire.
OK.
Tu vas payer plus si tu fais plus de kilométrage. Puis tu vas payer moins si tu fais moins de kilos.
Ouais. C'est pas une question d'aller vite ou non sur les autoroutes. Toi, ce à quoi tu penses, si je me trompe pas, c'est vraiment les amendes. Tu sais, je roule à 90 dans un secteur de 50 km/h. Tu sais, ça, c'est une amende. Là, ça serait toute personne qui possède une auto entre tel kilométrage et tel kilométrage va payer tant de nombre de dollars. Entre tel kilométrage et tel kilométrage va payer X nombre de dollars, et plus ton kilométrage est élevé à travers l'année, plus ta taxe va être élevée. Donc, c'est une façon un petit peu indirecte de venir compenser pour le carbone qui est dépensé, si on peut le voir comme ça. Vous, les filles, entre ça et une taxe fixe sur l'immatriculation d'un véhicule qui reviendrait annuellement, dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est des taxes qui reviendraient annuellement, mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes plus encline à avoir une préférence pour une de ces taxes-là? Est-ce que les deux, vous les trouvez équivalentes avec leur pour et leur contre. C'est quoi vos impressions sur ces taxes-là?
Moi, je serais pour la première taxe qu'on a discutée sur l'immatriculation. Oui. Cependant, je trouve que c'est une question qui est un petit peu fragile concernant le kilométrage, étant donné que c'est pas tout le monde qui gagne le même salaire. Vrai. Et la plupart du temps, les gens qui habitent plus loin de la ville, c'est les gens qui ont été capables de s'offrir une maison en banlieue où ça coûte moins cher qu'en ville.
Oui, ça, c'est certain. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des nuances. Je suis en train d'essayer de les retrouver dans l'article en ce moment, mais c'est difficile en lisant en diagonale. Mais il me semble qu'il y avait mention de justement les personnes qui habitent loin ou qui doivent beaucoup se déplacer pour le travail, qu'il y ait des exemptions ou qu'il y ait, certains allègements
oui,
au niveau de cette taxe.
Là, j'aurais l'impression que les gens qui sont moins bien payés, qui gagnent peut-être un moins bon salaire et qui habitent plus loin de la ville, seraient défavorisés. Ben, tu sais, vont payer plus que les gens qui auraient plus les moyens de le faire, qui habitent en ville. Donc, je pense que c'est pas une injustice, mais je suis pas sûre de la démarche.
Ben tout va dépendre de un, qu'est-ce qu'ils finissent par choisir comme type de taxe. Ici, c'est la taxe kilométrique, comme elle est appelée, de comment est-ce qu'elle sera appliquée, dans quelles contraintes, dans quelle définition un petit peu de qu'est-ce qui rentre dans la taxe et qu'est-ce qui rentre pas dans la taxe. Il parlait aussi dans l'article d'une application sur téléphone mobile ou d'auto-déclaration du kilométrage. Donc vraiment, il y a plusieurs avenues là à ce niveau-là qui sont observées, mais encore une fois, rien n'est coulé vraiment dans le béton.
C'est ça.
Là.
De mon côté, ça fait des dépenses et des dépenses.
C'est ça le truc. Mais veux pas, n'est-ce pas ça le cycle de la vie? D'être un adulte, dépenser pour survivre et survivre pour dépenser
en fait,
et ensuite mourir.
Dépenser. On fait que dépenser. J'ai l'impression qu'on fait que sortir de l'argent, mais on en reçoit moins. C'est ça le pire.
J'ai déjà eu une conversation avec quelqu'un où essentiellement la personne disait le problème de notre société, c'est que on vit pour travailler. Oh non, c'est on travaille pour vivre alors qu'on devrait vivre
pour
travailler.
C'est ça.
Parce que l'existence d'un être humain se définit par les accomplissements et le travail qu'il met dans son quotidien. Versus là, on est pris dans une espèce de cercle vicieux de on ne vit plus pour travailler, ce n'est plus notre raison de vivre, travailler, mais travailler est notre raison de vivre. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, puis je trouve que ça reflète un petit peu cet aspect-là. Mais c'est certain que ce n'est pas des temps qui sont évidents, surtout l'âge adulte où on a l'impression que c'est dépense après dépense, la maison, ensuite l'auto, oups, un bébé, oups, un deuxième bébé, tout à coup les bébés veulent des chiens.
J'ai l'impression que t'as un problème avec les bébés aujourd'hui.
Je sens que Sarah va avoir 5 enfants plus tard, je le sens.
Deux fois qu'elle parle des bébés aujourd'hui.
Moi, mon utérus est prêt, je vous l'ai dit, là, j'ai fait tous mes exercices de Kegel pour avoir 5 enfants, là, je suis... Non, c'est pas vrai, Mais non, pour vrai, j'ai rien contre les enfants. J'aime beaucoup les enfants. D'ailleurs, un de mes travaux sur le side, sur le côté, quand je ne fais pas de la radio, et mon travail principal, c'est de garder des enfants des collègues à mes parents, surtout. Si vous avez besoin d'une gardienne d'enfants, chers auditeurs, chers auditrices, je suis fantastique. Les enfants m'aiment et je ne sais pas pourquoi.
Ça, c'est...
Mais ouais, non, j'ai beaucoup de plaisir avec les enfants. C'est juste que je suis très... consciente de ce que ça implique un enfant.
C'est un investissement à long terme.
C'est un investissement de ton temps, de ton argent, de ta patience, de ton amour et surtout
la patience.
Surtout la patience et surtout, ça te demande de mettre de côté une énorme partie de toi-même et de ton ego. Je dis pas que tu ne peux plus être un être humain à part entière et que tu ne peux pas vivre ta vinaigrette quand tu as un enfant, mais ça te demande de changer beaucoup en tant qu'être humain, ça te demande de
d'évoluer,
de ne plus penser autant à toi et de faire des décisions en prenant en compte autre chose que ta propre personne. Et c'est, tu sais, avec les conditions socio-économiques, climatiques, ce n'est pas une décision à prendre à la légère et j'ai l'impression que c'est encore une décision que beaucoup de personnes prennent en coup de tête. Tu sais, genre, je suis enceinte, I guess que c'est ça qui est ça, tu sais.
Mais je pense que ça demande beaucoup plus de temps aux femmes qu'aux hommes. C'est un peu comme ce que, je pense, Michelle Obama, si vous l'avez vu, elle avait dit, elle a dit, bah, la vie de couple, c'est pas 50-50. C'est la femme qui donne, je dirais, 70% et l'homme qui donne juste 50, dans le fond. Mais je pense qu'elle avait totalement raison parce que quand je suis à couche, c'est la femme qui s'occupe plus de l'enfant que l'homme, celle qui est obligée de prendre des congés. L'homme, il peut s'en passer de toute façon. Mais je pense que ça demande beaucoup plus de temps à la femme qu'à l'homme.
Ouais, ben c'est certain que dans certaines dynamiques, oui, ça va être ça, mais il y a moyen, là, tu sais, moi, je connais des couples de parents où c'est le père qui est à la maison puis qui a vraiment quitté son emploi pour prendre soin du bébé, puis c'est ces couples-là, un petit peu, qui s'en vont au-delà de ce qui est la norme, là, dans s'occuper d'un enfant.
Et même, n'oublions pas là. Les couples homosexuels, là, qui sont d'excellents parents.
Ben oui, c'est homosexuel, lesbien ou couple queer de quelconque nature, ça fait des très bons parents. Et je trouve même qu'il y a peut-être une douceur, une sensibilité à parler de certaines choses de plus que d'autres parents n'auraient pas. Bref, beaucoup de choses sur les enfants et sur les taxes. Ça fait des gros sujets de discussion qui nous fait contempler beaucoup de choses face à la vie adulte. On va prendre un petit peu de recul, on va aller en musique et ensuite on va revenir un petit peu sur le sujet des enfants, mais plus au niveau de l'éducation. On se revient après une chanson. Adieu.
J'ai gardé tous tes messages. Adieu à toi et pour toujours. Merci pour tout, presque pour tout. Et tout ce que tu n'as pas pris, je l'ai gardé.
OK, un trou Big Mac, là, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Sarah Manzano, c'est encore meilleur.
Ah, que je suis d'accord que c'est encore meilleur parler d'actualité avec moi et mes fantastiques co-animatrices. Bien qu'un Big Mac, c'est ben ben bon à 3h du matin après une bonne brosse au Dagobert. On a tous vécu ça un moment donné. Écoutez, avant la pause, on parlait... Ben, avant la pause musicale, on parlait de divers sujets. La grève des autobus scolaires, les taxes sur les autos et à quel point ça coûte cher. Puis c'est... une décision à ne pas prendre à légère un enfant. Et on va un peu continuer dans ce sujet-là de l'enfance et de se développer en tant qu'être humain, en parlant des cégeps, plus précisément du temps que ça prend aux jeunes de décrocher leur diplôme. Vous, les filles, de toute évidence, vous avez fait votre cégep puisque vous êtes rendues à l'université. En combien de temps vous avez fait votre diplôme?
Moi, j'ai fait une technique et je l'ai fait en 3 ans malgré un accident.
OK, fait que t'as été rapide, efficace, tiki-dou dans le trou, comme on dit. Là.
Ouais.
Toi, Laetitia, ça t'a pris combien de temps?
Moi, j'ai pas eu de cégep à faire, malheureusement, avec mon programme, ouais. J'ai fait juste mon bac français, après, je suis rentrée directement à l'université.
Ah oui, c'est vrai, avec le français, c'est complètement différent.
C'est différent, c'est ça. Donc, il n'y avait pas de cégep dans mon programme.
OK, fait que toi, t'as pas fait le cégep. Moi, j'ai fait le cégep à Garneau. J'ai fait hors lettres et communication, le programme multidisciplinaire. Et je l'ai fait en 2 ans, là, le 2 ans que généralement ça prend pour un diplôme d'études collégiales. Et vous seriez peut-être ou peut-être pas surprise d'apprendre qu'à peine un tiers des cégepiens sont diplômés dans les temps. Et ce qu'on entend par les temps, c'est 2 ans pour les formations préuniversitaires et 3 ans pour les programmes techniques. C'est beaucoup de changements de cap, de sessions allégées, de travail rémunéré à travers les études qui ralentissent la cadence de la majorité. Je vais être très franche avec vous. Moi, je trouve que l'article de La Presse, écrite par Louise Leduc, très intéressant article, je vous invite à aller le lire, présente la situation un petit peu comme un problème, comme une fatalité. Pourtant, moi, je ne le vois pas comme un problème. Est-ce que vous... qu'est-ce que pour vous ça soulève comme enjeu positif ou négatif que les jeunes prennent un peu plus de temps à faire leurs études cégepiennes?
Personnellement, je crois que... OK, je réfléchis à mes mots pour pas...
faut bien peser les mots.
Personne. Mais on est dans une condition de pénurie de main d'œuvre.
C'est ça.
On est dans une condition qui fait qu'on a hâte que nos jeunes se diplôment et finissent sur le marché du travail.
Et même là, parfois, t'as pas besoin de certains diplômes là, pour finir dans certains endroits du marché du travail. Là.
Ouais, mais je pense que, tu sais, on veut que les étudiants se fassent diplômer, on veut que les étudiants aillent vite, qu'ils savent rapidement qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. On ne souhaite pas que les étudiants se trompent dans leur choix de carrière et qu'ils recommencent leurs études. Je crois qu'on est rendu... qu'on met beaucoup de pression sur les étudiants.
Oui.
Qu'on souhaite qu'ils atteignent une réussite presque impossible. Tu sais, en tout cas, dans ma tête, on met beaucoup de pression à savoir, bon, là, tu vas à l'université, tu choisis ce programme-là. Si tu te trompes, ben paye tes études, tu comprends?
Oui,
Puis, tu sais, même avec la bourse, les différentes bourses que le gouvernement offre maintenant aux étudiants universitaires, c'est à condition qu'ils passent tous leurs cours, qu'ils fassent telle affaire. Donc, je pense qu'on met une certaine pression parce qu'on a beaucoup d'attentes envers les jeunes générations. On voit les jeunes générations un peu comme le héros qui va sauver les gens qui sont en pénurie de main-d'œuvre.
Moi, je vais contre-argumenter avec ça en disant oui, je suis d'accord qu'on en met beaucoup sur les jeunes. C'est pas mauvais aussi d'avoir des standards sur les jeunes qui sortent des études, tu comprends-tu? C'est pas mauvais d'avoir... Tu veux que les médecins, que les futurs médecins de demain ne soient pas tous des médecins qui aillent passer floche leur cours de médecine. Là. Tu veux que les futurs étudiants qui ont étudié pour être dentistes, qu'ils aillent pas arracher ou casser la mâchoire de 2-3 tests avant de rentrer sur le marché du travail. Tu veux des gens qui ont bien réussi leur formation puis pas qu'ils l'ont réussi par la peau des fesses. Fait que c'est certain de... qu'au niveau scolaire, et on en a parlé un petit peu avec le débat de la semaine dernière sur la réussite de l'épreuve de français pour les 5e secondaires, là, à quel point la note de ce que ça voulait avait été diminuée, puis qu'il y avait peut-être une corrélation avec les efforts qui ont été mis là, sur les élèves qui passaient ou non cet examen-là. Fait que, tu sais, faut amener la nuance de il faut que les personnes qui graduent pour contribuer à notre économie, à notre écosystème de l'emploi, il faut que ça soit des personnes qui ont bien été formées et qui n'ont pas été juste pitchées dans le tas. Parfait, t'as un peu ta formation, t'apprendras
sur le tas
comme tu pourras. T'sais, tu veux du monde qui sont confiants en leur capacité une fois qu'ils arrivent sur un marché du travail et non qui sont chambranlants dans leur capacité quand ils arrivent, parce que ça va juste créer des problèmes en plus. Mais je suis d'accord que c'est t'sais, beaucoup d'exigences. Les prêts et bourses, c'est extrêmement difficile aussi parce que veut pas. Puis moi, j'en ai connu là, des amis que ils se sont endettés dans des prêts et bourses, puis ils se sont rendus compte que finalement le programme c'était pas ça qu'ils voulaient, puis que là ils devaient reconsidérer qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur vie. Mais finalement, il y avait beaucoup de réticence à se réembarquer dans quelque chose d'autre parce que ça signifiait d'autres prêts et bourses, d'autres dettes, d'autres argent entre guillemets pitché par les fenêtres. T'sais. Donc financièrement, il peut y avoir beaucoup de difficultés. À ce niveau-là aussi, puis tu parles de pression. Moi, je me souviens, pression parentale, je me suis déjà fait dire « Ah, Sarah, si tu finis pas ton cégep en 2 ans, ou si tu prends trop de temps pour finir ton cégep, si tu prends trop de temps pour finir ton université, tu vas être une retardataire. Tu veux pas être une retardataire, voyons. » Et puis, le mindset de prendre ton temps quand t'es dans tes études, ben t'es un slack. T'es quelqu'un qui slack, qui est paresseux.
Il est pas tough, là.
Qui spugne le beigne, puis qui est pas capable de travailler à travers la difficulté et l'adversité des études et en ressortir plus fort crânienement. Tu sais, c'est, je sais pas, là, c'est assez particulier. Là.
Moi, en lisant l'article, j'ai un petit peu rigolé dans le fond. Je me suis dit, faut savoir ce qu'on veut. Dans le fond, dans l'article, il dit pas trop pressé pour décrocher leur diplôme. Je trouve ça ironique déjà. Après, pendant l'article, il dit que ça fait que ça ralentit le marché du travail parce qu'on a moins de diplômés, on a moins de personnes qui vont travailler. Mais en fait, c'est soit on veut des personnes pour travailler ou soit on veut des personnes qualifiées pour bien faire le travail.
Ben oui.
Moi, je pense qu'on doit laisser le temps qu'il faut à un étudiant pour terminer ses études, 2 ans ou pas.
Amen.
2 ans, c'est le temps qu'on a peut-être calculé pour le nombre de cours qu'on a. Mais si tu ne te sens pas prêt, c'est bien d'être bien formé, d'aller sur le marché du travail pour faire bien le travail, plutôt que d'être mal formé, d'aller sur le marché du travail, on sera encore obligé d'embaucher d'autres personnes parce que le travail sera mal fait.
Oui, puis une personne ne sera pas suffisante fait pour venir...
C'est ça.
Ouais, non,
vu qu'on n'a pas besoin de pression quand on va à l'école, il faudrait qu'on puisse aller à notre rythme, il faudrait qu'on puisse partir parce qu'on le sent.
Oui,
non aller parce que il faut juste qu'on comble des postes dans le fond.
Je suis tout à fait d'accord, surtout qu'y aller un petit peu avec la mentalité de se mettre sur le marché du travail hâtivement, ça crée des adultes qui vont haïr leur job, puis qui vont pas être contents de où est-ce qu'ils se sont rendus dans la vie là. Mais en tout cas, tu sais, encore une fois, ça revient à dire chaque élève est différent, chaque élève a un parcours et a des besoins différents. Et c'est un petit peu ce qui est démontré dans l'article. On présente plusieurs portraits de différents étudiants au cégep. On a l'exemple de Sabrina Noël, qui est au cégep régional de la Naudière, qui, elle, travaille 20 heures par semaine. Elle avait 8 cours par semaine au début de sa session. Maintenant qu'elle est revenue en présentiel, ces 8 cours-là, plus son 20 heures de travail par semaine... plus se déplacer, c'est impossible pour elle. Elle se déplace en auto. Elle dit que ça serait encore pire en transport en commun. On a d'autres portraits d'étudiants. On a Abigail Beauregard qui, elle, va faire son cégep en 4 ans parce qu'il lui manquait des prérequis. Elisabeth Lolly en sciences qui, elle, veut alléger son horaire pour consacrer plus de temps à chaque matière, mieux l'assimiler et réduire son stress au lieu de juste ingurgiter puis revomir la matière sans la retenir. Il y en a un autre, Carl Anderson Bédard en sciences, qui, lui, veut faire son cégep en 2 ans en plus de travailler 14 heures semaine. Donc, vraiment, là, c'est... partout sur la carte, là, les portraits d'étudiants, les besoins et leur parcours. Donc, c'est un petit peu présomptueux. Moi, je trouve ça un petit peu... Je dirais pas mesquin, mais j'ai pas de meilleurs mots qui me viennent en ce moment. C'est un petit peu particulier de juste résumer ça à pas presser de décrocher leur diplôme. T'sais, c'est leur enlever du mérite. C'est un petit peu sous-estimer à quel point ils ont réfléchi à... qu'est-ce qui convient à eux, c'est quoi leurs besoins, puis c'est quoi leur parcours.
Mais aussi, là,
comme là, tu viens de nous parler d'une jeune étudiante qui va faire son parcours plus longtemps parce que elle travaille 20 heures semaine. Est-ce que le fait... Tu sais, ça dépend de chaque personne à quel moment tu veux mettre tes priorités aux bons endroits. Mais, aussi.
Mm-hmm. Ça dépend, est-ce qu'elle est TDAH, est-ce qu'elle a eu des troubles d'apprentissage, ça dépend de plein d'autres facteurs aussi. Là.
Oui, je sais, mais tu sais, comme je prends mon exemple personnellement, j'ai économisé mon argent depuis que j'ai 14 ans pour me payer une vie universitaire sans avoir à travailler durant l'année parce que j'ai des grosses difficultés scolaires qui m'empêchent de faire, par exemple, 20 heures semaine. Tu sais, moi, je suis à temps plein. J'ai mes 5 cours par semaine comme chaque étudiant.
Juste
que j'ai décidé de prioriser mes études envers le travail. Puis ça fait que je suis sur un plus petit budget que les autres, mais je réussis quand même à bien réussir mes études. Puis je vais réussir à me faire diplômer après mon 3 ans de baccalauréat. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend de chaque personne à quel moment. Tu sais, si pour elle, elle préfère faire son 20 heures semaine ou si elle doit faire son 20 heures semaine parce qu'elle n'a pas les moyens nécessaires de subvenir à ses besoins, c'est comprenable, c'est compréhensible. Tu sais, moi, personnellement, je me verrais pas être dans sa situation temps plein à faire 20 heures semaine. Je suis certaine que d'autres personnes le font. Mais pour ma part, ça serait pas possible. Je pense que c'est des cas... tout le monde est différent, puis tout le monde a des besoins différents, puis on doit mettre ça en compte. C'est pas qu'on est vache, c'est juste qu'on demande d'autres trucs.
C'est des cas uniques à tous et chacun veut pas. Et autant, tu sais, toi, t'as eu une situation familiale où tu as eu le privilège de pouvoir économiser de l'argent à partir de tes 14 ans. Tu pourras argumenter que dans d'autres situations, il y a eu des gens qui ont eu l'avantage, le privilège de se faire donner cet argent-là par leurs parents et ne même pas y penser, tu sais. Et ça dépend vraiment de différents facteurs socio-économiques au niveau du niveau d'apprentissage, de la capacité d'apprentissage. Fait que c'est vraiment une quantité incommensurable de facteurs qui sont difficiles à suivre et à uniformiser d'un élève à l'autre. Une autre aussi des facteurs qui peuvent varier d'un élève à un autre, c'est la situation de vie de l'élève au cégep ou même à l'université. Il y a des élèves qui habitent chez leurs parents, il y a des élèves qui ont eu la possibilité, le temps d'économiser et d'aller en appart, il y a des élèves qui ont juste pas eu le choix d'aller en appart et se sont fait pitcher dehors. Il y a des élèves qui sont en résidence. Et je pense que les résidences, d'ailleurs, c'est... quelque chose qui aide beaucoup d'étudiants, mais qui est aussi le sujet de beaucoup de débats. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle à propos de QS et des résidences pour étudiants, mais essentiellement, Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de construire plus de résidences étudiantes afin de lutter contre la pénurie de logements abordables sur le marché locatif et privé. Est-ce que vous habitez en résidence, les filles? Êtes-vous dans votre propre appartement? Êtes-vous chez vos parents? Comment ça fonctionne pour vous?
Moi, je suis dans mon propre appartement, dans le fond. Ça se passe plutôt bien, mais tu dois vraiment repartir les charges entre les études, le loyer, tout ça.
Tu dois faire un budget.
C'est
là.
Ça, tu dois vraiment avoir un bon budget pour ça.
Moi, personnellement, je suis en appartement avec deux autres personnes. Donc, on est une colocation de trois et on sépare le coût de la vie à trois.
OK, fait que vous êtes capable de vous arranger avec les séparations des dépenses, c'est ça?
Oui, exactement. Tu sais, l'hydroélectricité, le chauffage, même parfois, on va faire une épicerie commune. Tu sais, on essaie d'éparpiller un petit peu les coûts pour pas que ça coûte, ça soit toujours individuel. Mm-hmm. Et ça l'aide beaucoup, tu sais. Oui, ma vie me coûte plus cher que si j'habiterais en résidence, mais je pense que j'ai une plus belle qualité de vie que si j'habiterais dans une chambre seulement.
Dans une résidence, parfait. Ouais. Ben écoute, c'est un petit peu ce que le responsable du parti d'opposition en matière de logement, Andrés Fontecilla, j'espère que je le prononce bien, lui, il constate que la crise du logement frappe extrêmement fort les étudiants qui doivent bien souvent composer avec des revenus très modestes. On estime que la majorité des étudiants qui habitent en résidence gagnent 20 000 $ et moins par année, ce qui ne laisse pas beaucoup de lousse pour payer les études. Admettons qu'ils doivent payer leurs études en plus, leur alimentation, peut-être leur service cellulaire et autre chose. Ben le loyer, ça serait le prix du logement des résidences. T'sais. Les résidences, généralement, ça coûte un peu moins cher que du loyer, mais tout varie là, d'un cas à un autre. Monsieur Fontesilla observe qu'il y a de moins en moins de grands logements pour les colocations et de petits logements abordables. Il y a, tu sais, beaucoup de problèmes. Là. On parle de Montréal, on parle du Saguenay, on parle à Sherbrooke, que le coût de la vie est extrêmement difficile, que c'est difficile pour les étudiants de se payer sans se ruiner. Même pas là, des appartements comme vous le faites, là, vraiment des résidences. Résidences qui sont supposées être la solution la plus abordable. Même le marché pour ça est extrêmement difficile. À Saguenay, les étudiants rapportent de nombreux cas d'insalubrité quand ils sont en résidence. L'insalubrité, c'est un stress de plus dans ton quotidien en tant qu'étudiant dont tu n'as pas de besoin. Des faux baux, donc des bails qui ne sont pas vrais ou qui ne sont pas légales, si on peut dire ça comme ça. Des clauses abusives, des dépôts de garantie illégaux, des prix gonflés. T'sais, beaucoup, beaucoup d'affaires, là. On rapporte aussi que 27 % des étudiants universitaires à Saguenay gagnent moins de 10 000 par année. T'sais, on a le 62 % des étudiants locataires gagnent moins de 20 000 et 27 % 10 000. Ça laisse vraiment une grosse population qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour vivre en résidence. Et je pense que c'est une demande très légitime de la part de Québec solidaire qui est de construire plus de résidences étudiants et j'ajouterais même plus de logements sociaux, mais ça, c'est pour deux types de populations qui sont différentes, là, c'est certain. Sur ces deux sujets très gros qui méritent beaucoup de réflexion et beaucoup d'introspection aussi sur à quel point on a été chanceux ou non dans la vie, on va aller en petite pause publicitaire, on va s'alléger l'esprit, on va écouter quelques pubs, écouter une petite toune et on va revenir après la pause avec une chronique, la même chronique que la semaine dernière de notre fantastique Charles-Olivier Côté qui va nous raconter une belle histoire historique juste pour nous après la pause.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie, j'arrive!
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Un matin de l'été 2018, je percute violemment une voiture en vélo. La conductrice était en colère, c'était légitime de sa part. J'étais responsable de l'accident. Mais dans l'élan d'angoisse, de colère puis de peur, on s'est accrochés l'un à l'autre. Deux inconnus soudés, le temps d'une seconde infinie. Et si le chaos permettait de reconstruire le monde autrement? Je veux participer au chaos présenté du 17 janvier au 4 février au Théâtre Périscope.
contre la coriandre. Aux affamés, on débat de choses tout aussi déchirantes et un brin insignifiantes.
Moi, personnellement, je suis pour la coriandre. C'est ce qui fait vraiment l'ensemble des mets mexicains et de plusieurs mets latins. Si t'es contre la coriandre parce que ça goûte le savon, moi, je te dirais, conditionne-toi puis mange plus de gomme au savon, ça devrait aider au quotidien. Écoutez, on a un fantastique invité qui vient rajouter un petit peu de masculinité et de virilité. non, je niaise. Je me considère, voyons, très viril au quotidien malgré mon existence de femme. On a notre fantastique Charles-Olivier Côté, chroniqueur historique pour notre belle émission des Affamés du lundi midi, qui vient nous raconter une histoire assez intéressante de... moi, je vais appeler ça une histoire de coopération à propos du château d'Hystère, c'est bien ça?
Oui. C'est une histoire assez invraisemblable là, où il y a des SS, des soldats de la Wehrmacht, donc des soldats de l'armée normale allemande, puis des soldats américains ont décidé de faire équipe pour défendre un château médiéval du 13e siècle.
Ça, c'était à quelle époque, là? Donne-moi les années.
Deuxième guerre mondiale, 1945, après la mort d'Adolf Hitler.
OK, juste après la mort d'Adolf Hitler. Fait que là, les Allemands, eux, ils ont pas grand-chose sur lequel se rapatrier. Là,
il restait deux camps, les fanatiques puis ceux qui avaient déjà perdu la guerre.
OK, parfait.
Fait que ça dessine assez bien le portrait pour la suite.
Les fanatiques.
Les fanatiques, c'est vraiment ceux qui voyaient le régime nazi comme une religion, là, okay. Puis qui étaient prêts à mourir pour la cause jusqu'à leur dernière goutte de sang.
Je vais refaire comme la semaine dernière une autre comparaison dans Star Wars. Tu sais, dans Star Wars, là, à la fin du sixième film, fait quand la deuxième étoile de la mort est explosée puis que Darth Vader meurt et que supposément Palpatine meurt, là, turns out qu'il est pas mort parce qu'on l'apprend dans la nouvelle trilogie.
Là, tu viens juste de tout...
Je vais tout te perdre. Ouf. OK, ben essentiellement, là, à la fin du sixième Star Wars, quand techniquement la guerre est gagnée, tous les rebelles qui sont genre « Wouhou, on a gagné », mais il y a quand même... des fanatiques de Darth Vader et des fanatiques de l'Empire qui restent dans l'ombre. Et c'est ces fanatiques-là qui vont essentiellement revenir dans la troisième trilogie. Là, le retour du Jedi, non, c'est pas ça.
C'est une bonne question, je ne les ai pas écoutées.
Mais en tout cas, la trilogie avec Rey Skywalker, il y a essentiellement l'Empire qui revient. Ben, c'est ces fanatiques-là de l'Empire qui sont revenus. C'est un petit peu ces fanatiques-là de la Deuxième Guerre mondiale qui sont restés, même après la mort de Adolf Hitler. Et c'est je me doute un peu à cause d'eux que le mouvement nazi est encore vivant jusqu'à notre jour. Là.
Mais c'est un peu plus compliqué. Peut-être que je ferai un sujet là-dessus un jour. Pour vous mettre en mise en contexte, j'ai quand même un peu déjà fait avant, là, mais on est en avril 1945. Okay. Le régime nazi est sur le bord de l'écroulement. Ouais. Les Russes sont entrés en Allemagne, les Américains aussi. Ça sent vraiment la fin de la guerre. Les troupes les plus endoctrinées du régime vont vers Berlin ou vers les villes adjacentes ou vers l'Autriche pour se barricader, se préparer à faire le plus de pertes possible dans les forces alliées avant de mettre fin à la guerre.
Okay.
Alors, notre histoire va se passer dans un château médiéval du 13e siècle, comme je l'ai dit, qui a été reconstruit au 19e siècle, juste au sud de l'Allemagne, en Autriche. Le château, pour vous c'est vraiment un château classique comme dans les films qu'on voit à Hollywood, là, une passerelle, une forteresse en plein milieu, une grosse tour qui surplombe tout le reste du château.
Grosse barricade en pierre.
Une grosse muraille en pierre forgée. C'est le château
c'est
classique.
Imposant.
Ouais, exactement. Puis il a été reconditionné en prison pour les prisonniers avec influence. Donc, pour les prisonniers qui ont un peu plus de valeur qu'un soldat normal, comme par exemple un premier ministre, un généraux ou des générales.
OK, ouais.
Mais peu importe. Il a été intégré au camp de concentration de Dachau, pour ceux qui connaissent de nom. Je ne vais pas plus m'attarder là-dessus.
Non, c'est des grosses histoires qui viennent avec le nom de ce camp.
Non, exactement. Puis, comme je l'ai mentionné, vers la fin de la guerre, il y a eu plusieurs VIP français qui ont été enfermés dans ce château-là, dont le premier ministre français de l'époque, puis l'officier des renseignements de l'armée française. Je vais vous mentionner les noms tantôt parce qu'ils vont être importants. Coup de théâtre, Le 4 mai, la fin de la guerre s'en vient. Adolf Hitler est mort.
Supposément. Il y a des théories qui disent que non.
Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le dernier officier du camp de concentration s'est suicidé d'une balle dans la tête. Puis, suite à ce retournement de situation, tous les soldats du camp ont décidé de prendre la fuite pour aller rejoindre soit l'Allemagne ou continuer en Autriche en attendant les forces alliées.
OK.
Suivant ce pas, c'est à ce moment que Michel Clemenceau, l'officier du renseignement français, puis Paul Reynaud, le premier ministre français de l'époque...
Fait que Michel et Paul.
Michel et Paul.
Parfait.
Peut-être qu'il y a des noms pour une histoire
récondolesque. J'ai l'impression de parler de mes mononcles.
Ils ont décidé de sortir du château pour essayer d'en s'en sauver ou de se faire un plan pour essayer de se sauver du château avant que les SS se souviennent qu'ils étaient là.
Oui.
Parce que, bien évidemment, dans leur tête, c'est... D'après nous, on va se faire tuer parce qu'ils ne vont pas nous rendre aux alliés.
Non, ça ne sera certainement pas aussi clément que ça, en effet.
Fait qu'ils sortent du château, puis ils se rendent compte, après quelques minutes, que les nazis sont en train de fortifier le chemin vers le château et le village d'à côté avec des postes de mitrailleuses, des canons anti-chars et plein de patrouilles SS. Alors, ils se disent, je pense que c'est mieux qu'on retourne dans le château puis qu'on se fasse un vrai plan.
Contre le gros arsenal là, qui est devant eux.
Oui, exactement. Okay. On mettait le paquet pour la fin de la guerre, admettons. Leur plan était bien simple. Ils ont décidé de faire un drapeau français, de l'accrocher aux murailles du château. Tout d'un coup, il y a des avions alliés qui passent par là pour pas qu'ils se fassent bombarder par erreur. Puis, ils ont demandé l'aide de notre premier protagoniste, un capitaine SS décoré de la guerre, un vétéran fanatisé de l'armée nazie, que finalement, après avoir reçu une blessure, a décidé de se reconditionner dans la résistance autrichienne.
Ah oui!
Demandez-moi pas comment la résistance autrichienne a commencé à leur faire confiance, c'est pas mentionné dans l'histoire. Mais ils ont décidé de faire confiance à une personne qui s'appelle Kurt Siegfried Schrader.
Donc, Kurt est vraiment l'exemple comme quoi n'importe qui peut changer avec... ben de la volonté, puis ben de l'introspection.
Vous l'imaginez, là, c'est un peu... on est dans un film de Quentin Tarantino.
Ouais.
Il y a un méchant nazi dans le commando des bâtards.
Ouais.
C'est lui.
Ah, OK, genre Inglourious Basterd.
Vous voyez, je vois. Vous le branchez. pour entrer en contact avec l'armée américaine, ils ont décidé de faire appel au chef du château.
Okay.
Le cuisinier, là, pour le commun des mortels. Le chef Czech, comme on va l'appeler dans l'histoire. Puis on décide de l'envoyer vers les lignes alliées pour demander l'aide aux Américains qui savaient qu'ils allaient bientôt envahir l'Autriche, qui était non loin de la ville du village d'Hitler, en fait. En passant proche de mourir, le chef tchèque se fait sauver par un autre protagoniste important de notre histoire, le major Joseph Gengel.
Okay.
Joseph Gengel était aussi un soldat de l'armée régulière allemande, la Wehrmacht, aussi décoré, vétéran depuis... il est dans l'armée depuis 1935, il a vu tous les théâtres de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un soldat aguerri, admettons.
C'est un bonhomme qui a du vécu, il a du passé dans ses yeux.
Oui, exactement. Puis lui aussi a décidé, après avoir eu des blessures graves, décidé de se reconditionner aussi à la résistance autrichienne.
Crème beaucoup de reconditionnement pour le mieux dans ces cas-là.
Oui, pour le mieux. Surtout à la fin de la guerre, je pense qu'on choisit ce qui était plus... le mieux pour eux, je pense, pour leur survie. Ensuite, ces deux protagonistes-là ont décidé de construire leur chemin vers les lignes alliées en 4x4. Mais bien évidemment, vous allez me dire, un chef tchèque avec un major de l'armée allemande, encore dans son habit, se dirigeant vers les lignes alliées, ça allait finir moindrement en pet sauce.
Ça a à moitié l'air d'une situation qui va mal finir, à moitié l'air... du début d'une mauvaise blague.
Exactement. Surtout à la fin de la guerre, les soldats n'étaient pas très prêts à rigoler parce que Hitler était mort, bien évidemment. Oui. Les soldats savaient que la guerre s'achevait, puis ça leur tentait pas vraiment de mourir dans des plans foireux.
Ah, c'est sûr.
Alors, c'est à ce moment-là que les Américains voient deux hommes s'approcher du camp. Après avoir parlé à l'officier qui était en charge, John Kerry Lee, et il demande à son QG s'il pouvait intervenir au château d'Hitler. Son QG a bien dit oui parce que les cibles étaient d'importance dans le château. Étonnamment, lui, il était très excité de s'engager dans cette mission-là.
Okay.
Une mission de sauvetage, là, comme un peu dans un film Hollywood.
Lui, c'est quoi? C'était pour un coup d'ego. Il était comme « Ah oui, c'est ma chance! »
Dans l'histoire, lui, c'était un ancien... il y a 27 ans, c'était un ancien joueur de football universitaire étoilé aux États-Unis.
Ouais.
Alors, il y a quand même envie, en anglais, on appelle ça le fame.
Oui, le désir du succès et de l'attention.
Ou de la gloire.
De la gloire, oui.
Alors, il décide de partir avec 7 blindés et le sien. Le sien, il a même donné un nom très... un trait féminin, on va dire, le Bezaton Jenny, qu'il l'appelle affectueusement. Puis ensuite, ils ont décidé de partir vers le château du Terre. En arrivant à la première ville, il y a seulement 4 de ces 8 premiers tanks qui réussissent à passer le premier pont avant que celui-ci s'écroule sous leur poids.
OK, ouais. C'était pas un pont solide, là.
Non, effectivement. Puis ensuite, ils continuent. Ils arrivent à la ville où ils ont quand même un accueil assez chaleureux, où il y a d'autres soldats de la Wehrmacht qui est encore fidèle à Joseph Goebbels qui décide de se joindre au cortège.
Fait que là, leur petite troupe s'agrandit.
Maintenant, on est rendu avec des troupes SS, des troupes de la Wehrmacht et des troupes américaines. Fait que c'est assez un beau melting pot, surtout que les troupes américaines, ils n'ont pas même confiance envers ces troupes-là au départ.
Ouais.
Ils continuent leur chemin, seulement avec 2 tanks, car ils ont laissé 2 autres blindés dans la ville pour aider la résistance autrichienne. En arrivant au château, tout semblait correct, désert, on va dire. Puis c'est là que le deuxième tank qui l'accompagnait, le Bosch Buster, beau petit jeu de mots pour Ghostbuster, il a décidé de laisser sur le dernier pont avant d'arriver au château pour protéger leur fuite au cas où. Parce que c'était le seul point d'entrée vers le château qu'ils pouvaient réellement utiliser pour se sauver.
OK.
Rendu au château, le Bezaton Jenny est laissé dans le portique du château comme fortification. Puis c'est là que les 3 hommes, dans une scène très, très, très invraisemblable, ont décidé de faire un plan pour arrêter un assaut de SS.
OK, ces gars-là, ils étaient motivés comme j'ai rarement vu motivés, là.
Mais c'est surtout qu'il faut se mettre dans la tête que c'est plus le
contexte aussi de l'époque.
Le contexte et la confiance, là. T'sais, on savait pas trop si le général SS allait prendre le parti des troupes qui allaient foncer sur le château ou que le capitaine de l'armée de la Wehrmacht allait retourner sa veste. C'était pas assez clair dans ce moment-là.
Ouais.
Puis il y avait beaucoup de problèmes de confiance. Mais... malgré tout cela, ils réussissent à formuler un plan. Ils vont défendre les portiques du château, puis ils vont défendre les fenêtres de la forteresse. C'est leur plan. Ils décident d'aller se coucher, mais finalement, vers 4 heures du matin, ils commencent à entendre des tirs de MG-42 dans la porte du château, la bonne vieille porte en bois.
OK, ouais. Fait que ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé à 4 heures du matin, aux petites lueurs du jour. Puis c'est là qu'eux entendent le calibre 50 du Bezaton Jenny ouvrir le feu sur les troupes. C'est là qu'ils savent que ça a commencé, puis c'est là qu'ils savent que leur vie est en jeu.
Ouais.
Malgré leur sort, ils ripostent. C'est là que la confiance gagne les hommes, parce que c'est dans le feu de l'action qu'on prouve sa valeur. Puis c'est à ce moment-là que les hommes se font pleinement confiance jusqu'à la mort, parce que en fait, il n'y avait pas vraiment le choix.
De toute façon, t'es rendu face à la situation, il n'y a plus de retour en arrière.
Effectivement, fait qu'il n'y avait pas vraiment le choix de survivre ensemble. Comme j'ai dit, ils ont réussi à repousser les tentatives des SS de rentrer dans le château au point où ils arrivaient avec des grappins pour braver les murs en pierre du château, un peu comme vraiment à l'époque médiévale, ce qui arrivait avec des grappins et des échelles. Là. C'était un peu le même contexte, mais ce coup-là, il n'y avait pas des arcs, il y avait des mitraillettes.
Ben oui.
Tôt le matin, les choses deviennent un peu plus sérieuses dans le coin de 8h30, là, pour mettre un peu de contexte temporel. Les SS qui assiégeaient le château ont décidé d'apporter l'armure lourde. Ils ont décidé d'apporter des canons anti-aériens, puis des obusiers pour commencer à bombarder les murs pour faire un bon gros trou.
OK.
Le canon anti-aérien n'a pas vraiment d'efficacité, mis à part qu'il fait des trous de la grosseur d'une pomme dans le mur. Mais tu sais, la grosseur du mur, c'est plus de peur que de mal.
Ouais.
Mais c'est plus l'obusier qui rend les choses un peu compliquées parce qu'il commence à bombarder le château. En bombardant le château, il réussit à prendre à partie le blindé du l'officier Lee et le détruit, le meilleur de combat, devant le château. Fait que là, les soldats, ils se disent, on n'a plus vraiment de chance de survie parce qu'il y a un bataillon SS qui nous fonce dessus, que soi-disant, c'est presque plus que 1000 hommes, en fait.
Ouais.
Puis on est 12.
Oh boy, ouais, non, son...
Ça commence à être épicé, on va dire. Alors, c'est à ce moment-là qu'en voyant leur espoir de survie diminuer, les VIP français qui s'avaient cachés dans la forteresse, la place, ça va être un peu abstrait, là, mais fortifiée du château, la Grande Tour, oui. qui est faite pour justement contenir des tirs de canon, du canon du 13e siècle, mais qui est censée quand même recevoir une coupe de coups, les VIP décident de sortir la forteresse et aller aider les hommes qui les défendaient.
Alors, let's go! OK, wow.
Imaginez-vous le premier ministre français actuel qui prend les armes dans un château médiéval pour aller essayer de sauver sa vie puis la vie des hommes. On voit plus ça aujourd'hui.
Ça peint tout un portrait.
Oui, effectivement. Puis c'est à ce moment-là qu'à une fenêtre, pendant que Paul tire dans une des fenêtres du château, Joseph Gengold est atteint d'une balle de sniper et meurt sur le coup.
Oh wow, OK.
En voyant cela, en voyant le soldat de la Wehrmacht mort, de nombreux autres soldats aussi de l'armée allemande blessés, l'officier Lee, avec la radio complètement détruite, parce que sinon ça serait pas drôle,
ouais.
décide de se précipiter sur le téléphone du château. Une bonne vieille ligne téléphonique, là, peu comme vos grands-parents avaient. Il décide de prendre le téléphone, appeler la résistance autrichienne et leur dire « Allez, les amis, on a besoin d'aide, là. C'est le temps que vous veniez parce qu'on ne résistera pas un peu plus longtemps.
Ouais. »
Après le coup de téléphone, la ligne coupe, brusquement. C'est à ce moment-là que les hommes se disent « Je pense que c'est le moment qu'on retraite dans la forteresse. »
Ouais. On est foutus un peu. Là.
Les hommes commencent à retraiter dans la forteresse et c'est à ce moment-là qu'ils entendent le bruit d'une mitrailleuse lourde.
Wow.
Étonnamment, ça ressemblait beaucoup à un tank américain.
Okay.
C'est à ce moment-là que la cavalerie arrive. Au moment le plus parfait qu'il ne fait pas arriver. Il réussit à prendre à partie le reste des troupes SS qu'il avait, parce que ce qui était arrivé, c'est qu'il y avait une colonne de blindés américaines. Là, ouais. Quand on parle de colonne, c'est une dizaine ou une quinzaine de tanks là, qui prennent d'assaut les forces SS et qui réussissent à repousser les forces
wow.
et puis à sauver les VIP. Alors, fin de l'histoire, les VIP, tout le monde a survécu. Les troupes américaines, tout le monde a survécu. Les seules pertes de l'histoire, c'est les troupes de Joseph Gengold qui sont malheureusement décédées lors de la bataille du château. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, là, avec tous les films de Netflix qu'on a aujourd'hui, là, cette histoire-là n'a jamais été reprise dans un film.
Elle devrait, mais il me semble que je la verrais justement devenir un film d'action, Quentin Tarantino historique, là, ça serait...
Ou peu importe, juste un film là, en temps normal. T'sais, on voit des actes de guerre qui sont beaucoup moins impressionnantes que celle-là, ouais. surtout par l'alliance improbable de trois armées différentes, que je vous rappelle sont quand même tirées dessus pendant 6 ans.
Ouais.
Ils décident de faire une alliance à la dernière minute pour essayer de sauver leur peau. C'est assez hollywoodien comme histoire.
Ben c'est pas juste hollywoodien, c'est vraiment même le timing de l'arrivée de l'aide à la fin de ton histoire est parfaite là à ce qu'on trouverait dans un timing de scénario de film. C'est vraiment une histoire sortie là des meilleurs contes et légendes un petit peu de notre histoire.
Puis en plus, ce qui est drôle à propos de ça, c'est quand les blindés sont arrivés, c'est pas pour faire que le film finisse bien, c'est vraiment arrivé comme ça dans la vraie vie. Puis étonnamment, on dirait qu'à chaque fois que je vous conte une histoire, la cavalerie arrive toujours au bon moment. Ou c'est étrangement que ça puisse paraître.
Mais bon. C'est la beauté de tes histoires. Ça nous fait voir une facette de ce qu'on n'apprend pas dans nos livres d'école. Mmh. Puis je trouve ça absolument fascinant et intéressant à chaque fois. Tu sais, je trouve que c'est des anecdotes comme ça qu'ils devraient raconter un peu plus dans les cours d'histoire pour faire développer l'amour de l'histoire aux jeunes tabarnouches, parce que c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Charles-Olivier Côté, merci. Merci beaucoup d'être venu cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine, comme à chaque lundi. On va aller faire une toute petite pause musicale bien furtive et on vous revient dans quelques minutes.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur.
Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tout le monde parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES. C'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mer climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Sans l'accident comme on attendait Messi. À demi conscient dans le taxi, sable mouvant sous le backseat. Chez Gap Messi, je crois je perds un peu la magie. Glam life QC, est-ce que ce sera ma vie? Nomme-moi la ville que tu veux, jure j'ai mis le feu, charmer les tantes et les neveux, les cousines et les baveux. Mais quand je rentre, y a le plafond de l'appart qui est sur le point de fondre en deux. Hier j'ai séparé les eaux, aujourd'hui j'ai touché le creux.
J'ai touché le creux.
J'ai passé la nuit au plus bas, entre les démons et le passé, plus envie de m'expliquer, le cœur au point d'imploser, je suis trop exposé, jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien, donne-moi un peu de temps, que je retrouve mes yeux d'enfant, donne-moi ce goût d'avant, qui t'était plus innocent. Après la pluie, vient le beau temps. Oui, mais l'orage lui fait du ciel ce qu'il est vraiment. Derrière mes yeux, il y a ton sourire. Et derrière le pire, toujours il y a l'avenir. Et si demain j'ai encore la gueule à terre, t'inquiète, le ciel va finir par dégager.
On a entendu dire que le dessert préféré de Sarah Manzano, c'est la mousse au chocolat. Ah, c'est tout. À un moment donné, ça finit, là, les jeux de mots, ça la bouffe.
En effet, tout ce qui est chocolaté, j'aime bien ça. Comme dessert, c'est toujours délicieux. Mais ce qui est encore plus délicieux qu'une mousse chocolatée, ah, c'est la fantastique capsule Mrs. Worldwide! Point, 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 point! On n'a toujours pas de son pour ça. Mais Gann, c'est quoi les nouvelles autour du monde aujourd'hui? Raconte-nous ça, Top Chrono.
Ouais, Top Chrono, on m'a donné un bon petit 5 minutes pour vous donner l'information. Donc, je vais commencer maintenant. Il y a eu une explosion dans une mosquée qui a fait au moins 33 morts au Pakistan et 150 autres blessés. C'est une explosion qui est survenue dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Encore aujourd'hui, on soupçonne que certaines personnes soient encore prises dans les débris. En effet, un haut responsable administratif, de la province a mentionné qu'actuellement, la priorité numéro un du gouvernement, c'était de sauver les personnes qui étaient encore coincées sur les décombres. Une grande partie des victimes sont des policiers qui s'étaient rendus à la mosquée depuis leur caserne voisine. Et selon la police, c'est quelque 260 fidèles qui étaient présents au moment de l'explosion. On dit que une des hypothèses, ce serait un attentat suicide qui sera à l'étude. Donc, on va probablement avoir plus de détails d'ici quelques jours. Également, du côté de la République tchèque, l'ancien chef d'état-major de l'armée tchèque a remporté une victoire écrasante face à l'ex-premier ministre populiste Andrej Babiš. Il succède au président pro-russe et eurosceptique Miloš Zeman avec plus de 58% des voix. Je vais redire son nom, désolé si je prononce mal. Petr Pavel, qui revendique... dans le fond, c'est un partisan qui revendique un pays ancré dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc, il remplacera là, le ministre sortant le 9 mars. Et le premier ministre sortant, c'était un pro-russe et un eurosceptique. Donc, je pense qu'il va vraiment avoir une grosse différence entre l'ancien gouvernement et le nouveau. Donc, ce dernier, l'ancien premier ministre, avait pas hésité à afficher sa sympathie pour la Russie ou pour la Chine dans les dossiers de guerre. Donc, maintenant, le nouveau premier ministre a dit que dès dimanche 29 janvier, il allait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s'assurer de lui montrer le soutien de Prague dans la guerre de Russes versus Ukraine. Et que lundi, il y aurait un entretien avec son homologue de Taïwan qui a comme... ben pas une guerre, mais qui a comme des tensions entre la Taïwan et la Chine. Car selon lui, il est certainement dans l'intérêt du pays de conserver des relations commerciales intéressantes et peut-être aussi scientifiques avec Taïwan. Donc, c'était ma petite capsule de 5 minutes pour aujourd'hui.
Écoute, merci, Megan. C'est toujours aussi intéressant, puis c'est très pertinent, j'ai l'impression, de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans notre petit nombril qu'est le Québec. Il y a bien d'autres populations qui existent ailleurs dans le monde, et c'est toujours intéressant et pertinent de s'informer sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur situation de vie, et relativiser avec nous comment est-ce qu'on vit et c'est quoi nos problèmes au quotidien. Merci beaucoup, Megan. On va rester un petit peu dans des sujets similaires, quoi qu'on va ramener ça un petit peu plus localement. On va rester au Québec. On a la nouvelle que le gouvernement de François Legault est insatisfait des explications fournies par la nouvelle représentante fédérale dans la lutte contre l'islamophobie. Et je vais peut-être... à l'avance, je vous préviens, scraper son nom de famille et je m'en excuse, c'est Amira El-Gawabi. Donc, Amira El-Gawabi, c'est ça, c'est la nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, qui a affirmé dans une chronique que la majorité des Québécois semblait influencée par un sentiment anti-musulman. Et le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, a déclaré que ça ne fait... que tenter de justifier je m'enfarge dans mes mots.
Prends ton temps, vas-y.
Sujet, verbe, complément, Sarah Manzano. Le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, a déclaré lundi que Madame El-Gawabi n'a fait que tenter de justifier ses propos odieux. Et que, bon, en fait, plusieurs personnes au sein du gouvernement québécois dénoncent ces propos supposément odieux et demandent que le gouvernement Trudeau la démette sans délai, donc la démette de ses fonctions. Madame Amira El-Gawabi écrivait dans une chronique publiée en juillet 2019... que la majorité des Québécois semblait influencée non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Elle a voulu se défendre, elle a voulu clarifier sa chronique qu'elle juge mal comprise. Et on la cite, Madame El-Gawabi dit... ouais, c'est ça, elle dit « Je vais être très claire, je ne crois pas que la vaste majorité des Québécois sont islamophobes. » elle se basait essentiellement sur une chronique. Sa chronique se basait sur un sondage léger qui avait été fait il y a quelques années de cela, où on affirmait que 88% des Québécois qui appuyaient la loi 21, la fameuse loi 21 qui est au cœur de tant de débats, que 88% des Québécois appuyaient cette loi 21-là et avaient une perception négative de l'islam. Donc, c'est quand même une statistique qui n'est pas indéniable. Quand 88% des Québécois qui appuient la loi 21 ont une vision négative de l'islam, c'est pas incompréhensible que Mme Elga Wahbi ait sauté à ces conclusions-là. Ça reste que c'est un débat extrêmement polémique en ce moment. Il y a deux côtés de la médaille. Ceux qui appuient Mme Elga Wahbi et qui approuvent le fait qu'elle se soit veut pas fier sur des chiffres et des statistiques. Mm-hmm. Et l'autre côté qui est essentiellement blessé et a l'impression que ça perdure un stéréotype négatif des Québécois qui veut pas, et je pèse mes mots, mais la population québécoise est un peu percussionnée, là. Elle n'est pas toujours les bienvenues dans le Canada anglais. Moi, là, des maisons de Québécois qui se sont fait vandaliser, dévaliser au Canada anglais, go back to your place, pea soup, freaking frog, des insultes comme ça, des assauts simplement parce que quelqu'un est francophone au Canada anglais. J'en ai entendu beaucoup, des histoires d'horreur, beaucoup de préjugés envers les Québécois. Et là, l'argument un petit peu de cette nouvelle-là, c'est que ça vient nourrir ces potentiels préjugés négatifs envers les Québécois. Sauf que l'article, la chronique de Mme Elga Wahbi se base sur le fait que il y a un sondage léger qui dit qu'il y a 88% des Québécois qui ont une perception négative de l'islam parmi ceux-là qui ont appuyé la loi 21. Donc c'est très vicieux, je vous dirais, comme situation. C'est très particulière, là. Je sais pas, vous, c'est quoi votre input sur la situation? Je vous demanderai pas de quel côté du débat vous êtes, parce que je pense pas que c'est notre place de se projeter, mais je sais pas si vous avez des impressions. Est-ce que vous avez des proches qui sont musulmans? Est-ce que vous avez des amis qui sont musulmans? Comment est-ce que vous percevez un petit peu cette situation-là, là?
Moi, je pense que c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'éducation.
C'est ça.
Je crois qu'il y a beaucoup plus de tolérance de la part des jeunes générations que de la part des générations plus anciennes. Donc, je pense que ce chiffre-là de ce sondage léger pourrait être beaucoup plus léger si on prendrait la peine d'expliquer, d'éduquer, en fait, les différentes générations de qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que les différentes religions, parce que oui, on est une société qui est très ouverte, on est une société qui est multiculturalisme, mais je pense qu'il nous manque beaucoup de savoir qui fait qu'on porte certains préjugés envers certaines religions ou envers certaines personnes. Donc, je pense que ça serait important de clarifier ça.
Il doit y avoir aussi une certaine génération qui est prise un petit peu avec la vision de l'islam comme étant relié au 11 septembre 2001, même si ça n'a pas nécessairement rapport avec ça, là.
Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Megan. Il y a un manque de connaissances, je dirais. Et puis aussi, je pense que les populations d'avant sont plus conservatrices par rapport à ce que Sarah a relevé, comme le 11 septembre ou bien d'autres événements, avec les groupes qui s'affilient à l'islam, comme Al-Qaïda et bien d'autres. Donc, je dirais que ce serait vraiment une nouvelle éducation, parce que si on veut aller sur une société multiculturaliste avec plusieurs religions, il faudrait qu'on puisse accepter toutes les religions et non discriminer d'autres et en accepter d'autres. Mais après, est-ce que le sondage était nécessaire? Franchement, je me pose des questions.
Ben, tu sais, à la base, le sondage, c'était pour voir un petit peu les nuances des différentes populations qui appuient la loi 21. La loi 21, qui était une loi assez controversée à différents niveaux. Et donc, c'était un petit peu de mesurer qui est pour cette loi-là, qui est contre, et c'est quoi les tendances, les valeurs, les croyances de chacun des groupes qui adhèrent ou n'adhèrent pas à cette loi-là. Donc, je pense pas que c'est inutile comme sondage. Je pense que ça fait relever peut-être certaines tendances auprès de certains groupes ou auprès de certaines mentalités. mais c'est toujours important de bien réutiliser le matériel et de ne pas l'utiliser simplement comme bon nous semble pour que ça se moule avec un narratif de notre choix.
C'est vrai quand même, dans le fond.
Donc, on va laisser un petit peu de côté cette nouvelle-là. On va vous updater sur la situation, on va vous mettre à jour, voir sur ce qui se déroule suite à ça. J'aimerais conclure rapidement l'émission là, avec une dernière petite nouvelle que je trouve assez anecdotique, assez intéressante. Tantôt, Mégane, toi, tu parlais du fait que tu économises de l'argent depuis l'âge de 14 ans pour tes études. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans aussi, durant l'été seulement. Donc, j'ai aussi commencé à faire des économies depuis l'âge de 14 ans. Et je viens... il y a quelques jours de cela, de recevoir ma première carte de crédit, premier avis, et j'ai reçu ma première carte de débit à mes 16 ans. Moi, je ne me verrais pas nécessairement partager mon argent avec quelqu'un d'autre, à la limite peut-être avoir un compte conjoint dans un certain futur, mais mes économies, mon argent, c'est mon argent. Ce n'est pourtant pas le cas de cette colocataire. Cette anecdote-là, cette nouvelle-là, je l'appelle affectueusement cette coloc et un compte de banque au lieu de quatre filles et un jeans. tout simplement parce que c'est sept gars en colocation qui n'ont pas tous terminé leur secondaire, qui dédaignent le luxe et se contentent de deux voitures pour le groupe en entier. Ils vivent ensemble à Laval-sur-le-Lac dans une grosse maison, possèdent un chalet collectif à Tremblant et un immeuble de bureau à Montréal. Ils sont nommés les Chilionneurs, essentiellement parce qu'ils sont chill. Et c'est ce groupe de sept personnes-là qui partagent essentiellement un compte de banque et toute leur richesse. Vous, est-ce que ça serait une situation dans laquelle vous vous metteriez? Toi, Mégane, t'habites avec deux autres colocataires. Est-ce que tu partagerais l'entièreté de ton argent avec deux autres colocataires dans un compte de banque commun?
Jamais de la vie! Non! Hey, d'avoir travaillé aussi longtemps, d'avoir pilé mon argent, d'avoir... veux pas, là, l'argent, tu la trouves pas quand tu vas mal. Tu la gagnes, tu la travailles. Donc... Il y a une question d'égalité. Si tu travailles 40 heures semaine puis que tu t'es en colocation avec un gars qui fait 20 heures semaine puis que tu lui donnes la moitié de ta paie, excuse-moi, mais en tout cas, personnellement, je suis pas très ouverte à ça. Mais comme toi, Sarah, dans l'éventualité que je me mette dans une relation sérieuse dans un certain futur, ça me dérangerait pas de faire comme mes parents, d'avoir un compte de conjoint de fait, là, ouais. Puis de mettre l'argent les deux ensemble, puis de payer les dépenses les deux ensemble. Mais de là à faire ça avec les colocataires, non merci.
Ben ça, en tout cas, moi, quand je lis l'article, et je vous encourage à aller le lire si vous êtes intéressé par l'histoire, Journal de Québec, Louis-Philippe Messier. Ce que je semble comprendre de la relation entre ces gars-là, c'est que c'est sept gars, des vieux amis, là, des amis de longue date, là, fait pas des colocs ramassés sur le coin d'une rue ou sur Kijiji, tu sais. Ces vieux amis-là sont originaires de Lachenaie de Mascouche. Ils sont tous entre 27 et 30 ans. Et essentiellement, leur fonction primaire semble être de lancer et d'exploiter des compagnies. Leur compagnie mère s'appelle justement les Chilionnaires. En ce que moi, je suis mitigée sur le nom. J'espère que c'est pas un nom qui est seté pour eux. Mais chacun ses choix. Donc, c'est ça. Cette compagnie centrale qui leur gère neuf autres compagnies, dont un holding immobilier appelé NOCAB, essentiellement bacon à l'envers. Ils décrivent ça essentiellement, ces sept membres-là, comme une commune insolite où le un pour tous pour un, wow, se veut la norme. Donc, c'est vraiment... On pourrait appeler ça là, du communo-capitaliste, comme eux-mêmes là, le soulignent. C'est très hippie comme façon de faire du business, très particulier. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un modèle d'affaires... là, ça semble tout être des gars d'une génération un peu plus millennial, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un modèle qu'on va revoir reproduite par des générations un peu plus jeunes. Il y a clairement un certain potentiel et un certain intérêt à opter pour ce genre de modèle d'affaires-là, mais bon Dieu qu'il faut faire confiance avec le monde avec qui on est, parce que j'aime bien mes amis, mais c'est pas à tout le monde avec qui je ferais confiance à mon argent.
C'est ça, franchement. En plus, avec des colocs, des gens peut-être qui avec qui tu seras plus ami d'ici des années après, franchement, faut du courage pour le faire. Moi, je pense pas le faire.
Il faut du courage pour le faire. Là, il semble sous-entendre que c'est des amis de longue date, des amis d'enfance quasiment. Donc, je peux croire qu'il y a vraiment un lien précis qui s'est créé entre eux.
Mais même, on ne connaît pas quelqu'un totalement, je dirais.
Tu peux le connaître d'une façon sociale, mais tu ne le connais pas nécessairement d'une façon business financière. Ouais, c'est une toute autre dynamique, une toute autre relation.
Et puis, de ce que je sais, c'est qu'en famille, il n'y a pas de business. En amitié, non
c'est
plus.
C'est très difficile, très difficile.
Mais ouais, tu peux pas.
Non, quand tu t'embarques dans du business amical ou familial...
Attends-toi à des pertes plutôt qu'à de la réussite,
ben,
je dirais.
Je n'irai pas dans des absolus comme ça, mais attelle-toi, aie un bon plan, puis les deux aient des plans de backup, puis prévoyez à l'avance des plans de succession et des plans de... qu'est-ce qui se passe si on finit par vivre un malentendu ou on ne s'entend plus sur un certain sujet? C'est absolument très particulier. En tout cas, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai des amis qui sont assez addicts à faire du magasinage en ligne, fait que je leur donnerai pas accès à mon compte de banque du jour au lendemain, c'est certain. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir accompagnés dans cette folle et fantastique émission qui est Les Affamés le lundi midi. J'espère que vous êtes rassasiés. Moi, en tout cas, je pense que je vais aller faire une petite sieste de digestion parce que, je commence à être pleine du bedon. Il va y avoir d'autres affamés qui seront là demain midi. À chaque jour de la semaine, dans le fond, il y a une émission des affamés. Mais on le sait tous, les affamés les plus cool, c'est moi, c'est Mégane, c'est Laetitia. Et on est là chaque lundi midi à midi tapant pendant une heure et demie avec vous pour votre plaisir et pour votre gourmandise. On se retrouve lundi prochain et à très bientôt.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Jamais un homme n'avait autant désiré une femme. Tu étais là, tout près de moi, sur la piste de danse. Tant d'années à boire ma peine, comme les rues d'Amsterdam.